La semaine du premier tweet de Benoît XVI, le premier pape de l'histoire à avoir tweeté. C'était mercredi. Comment interpréter cette présence du pape sur les réseaux sociaux? Qu'en attendent et qu'en pensent les internautes catholiques? Nous posions la question à Fik Monskov, un jeune blogueur catholique français.
Je trouve ça intéressant de deux points de vue. D'abord du point de vue des catholiques eux-mêmes qui utilisent Twitter. Avoir un lien aussi direct que possible avec le pape lui-même, ça permettra d'avoir un contact plus proche avec ce père qui est le nôtre. Proche et plus direct, plus humain. Et pour les non-catholiques, je trouve que ça peut être intéressant aussi d'avoir justement aussi ce rapport plus humain et de voir ce que dit le pape lui-même sans avoir l'impression qu'il y a tout le poids, entre guillemets, de l'Église. Clairement, il ne va pas exposer la doctrine sociale de l'Église via Twitter, je ne pense pas que ce soit l'objectif, mais ce sera, je pense, enfin moi je le vois plus comme ça, plus des petites pensées, des petites choses, mais qui aussi ont l'avantage, peut-être dans un monde où tout est plus rapide, où on est plus dans le zapping, aussi d'avoir un petit peu cette pensée du pape et donc de l'Église, par petites touffes assez discrètes.
Lundi, l'Union européenne recevait le prix Nobel de la paix. La nouvelle en avait surpris plus d'un lorsqu'en octobre dernier, le comité avait fait ce choix. Certes, les dirigeants européens et des différents États membres se sont félicités de cette récompense qui salue les efforts menés par l'UE en faveur de la paix. Mais peut-on vraiment dire que l'Union européenne est un facteur de paix? Globalement, oui, nous disait Olivier Costa, chercheur au CNRS et membre du centre Émile Durkheim à Bordeaux.
Ça a été beaucoup discuté puisque beaucoup de partisans de l'Union européenne ont tiré avantage de l'attribution du prix Nobel de la paix pour souligner le bilan de la construction européenne en tant qu'élément de pacification du continent. Certains eurosceptiques ont estimé que c'était des foutaises et que il y avait bien d'autres facteurs qui faisaient que l'Europe était en paix, soulignant notamment le fait que, historiquement, des démocraties ne se font pas la guerre et que donc si la paix est assurée dans l'Union européenne, c'est aussi parce qu'on a là 27 États démocratiques qui ont une capacité à coexister pacifiquement. D'autres vont estimer que, bien au contraire, l'Union européenne est un ensemble qui est encore trop guerrier pour eux. On voit que les avis divergent de ce point de vue-là en Europe, selon les orientations partisanes des personnes, selon aussi leur nationalité. On a en Europe un certain nombre de nations, l'Autriche, la Suède, la Finlande, qui ont une tradition pacifique très très forte et on estime que les timides efforts de l'Union européenne pour se doter d'une diplomatie ou d'un système de défense sont déjà trop.
En Égypte, pendant ce temps, l'armée revenait cette semaine sur le devant de la scène en s'imposant comme l'un des médiateurs de la crise politique. Et nous recueillons l'analyse de Bernard Bottiveau, chercheur au CNRS et spécialiste du Proche-Orient.
Ce qu'elle a gagné, c'est de montrer qu'elle est garante de l'ordre public et de garder toutes ses positions dans tous les niveaux de la société. Il ne faut pas oublier que les hauts gradés, l'état-major, enfin toute l'élite de l'armée, faisait un corps d'hommes d'affaires éventuellement. Il y avait une économie dépendante de l'armée, il y avait des finances dépendantes de l'armée. C'est un pouvoir en Égypte. Donc tout président qui se respecte après le renversement de Moubarak sera tenté de la mettre au pas. Donc ce qui a déjà commencé à faire Morsi. Donc l'armée, en tout cas ses chefs, ne veulent pas être mis à l'écart, ne veulent pas perdre leurs privilèges, leurs avantages. Je crois que c'est ça les enjeux actuels.
La RDC, plus de 900 000 personnes considérées comme des déplacés dans les régions du Nord Kivu. C'est ce qu'annonçait le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Le résultat de nombreux mois de combat entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Aujourd'hui, les Congolais attendent des explications, en tout cas sur certaines questions liées au conflit. À l'instar de Cécile Kienge, une Congolaise vivant en Italie, elle y coordonne le projet Don Bosco Afia pour la promotion de la santé à Lubumbashi.
Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, comment est-ce qu'un petit nombre de rebelles peuvent prendre une partie du Congo. Et ça reste encore sans explication. Et ce que moi je peux déduire est que la République démocratique du Congo en ce moment est en train de subir une politique internationale et aussi nationale qui l'a un peu pénalisée puisqu'on trouve des gens qui ont trahi le pays. Un peu à tous les niveaux.
Zimbabwe, Harare, tentait cette semaine de réhabiliter l'image de ses diamants et attirer du coup davantage d'investissements. Synonyme de violation des droits de l'homme, de meurtre et de corruption, qu'en est-il aujourd'hui? Les diamants du sang se vendent-ils toujours aussi impunément? Alain Lallemand, journaliste au quotidien belge Le Soir et auteur de « L'envers du diamant » aux éditions Racine, répondait à la question.
Ils ne sont pas vendus à leur véritable valeur, mais effectivement, vous avez d'une part des diamants du sang d'origine zimbabwéenne qui continuent à sortir du Zimbabwe via l'Angola, via le Mozambique et qui se retrouvent sur les marchés de Dubaï et de l'Inde et puis immanquablement à Anvers. Aujourd'hui, quand vous achetez un diamant, vous n'êtes plus sûr d'avoir un diamant propre, un diamant moral, un diamant qui n'est pas entaché de sang.
Et puis en France, conséquence directe de la crise et de l'austérité, dans le pays, plus d'une personne personnes sur 7 vit dans la pauvreté. Pour leur venir en aide, le gouvernement a organisé cette semaine une conférence nationale, adoptant un plan quinquennal dévoilé par le Premier ministre et chiffré à plus de 2 milliards d'euros. Des efforts salués par la Fondation Abbé Pierre, mais qui restent insuffisants, en tout cas pour son délégué général, Patrick Doutreligne, pour qui ce plan, nous disait-il, manque d'ambition.
Là, aujourd'hui, on a juste la satisfaction de voir qu'une partie des mesures qu'on a proposées est reprise et que, de nouveau, on s'oriente vers des aspects plus positifs, y compris sur le regard qu'on a sur les exclus et les pauvres de notre société, qui depuis 10 ans étaient un peu considérés ou comme des parasites ou des assistés et non pas comme des victimes et comme des gens qui pouvaient se reprendre en main.